Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 20 juin 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Le Mali a toujours besoin d'une importante assistance humanitaire, a dit hier un haut fonctionnaire de l'ONU.
Au Kenya, les forces de sécurité abattent 5 personnes soupçonnées d'implication dans les récentes attaques meurtrières dans le pays.
Washington annule des manœuvres militaires avec Kampala et prend d'autres mesures en réaction à la nouvelle loi anti-homosexuelle en Ouganda.
En Mauritanie, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 21 juin prend fin aujourd'hui.
Le président Barack Obama prêt à envoyer jusqu'à 300 conseillers militaires en Irak.
L'OTAN annonce un nouveau renforcement de la présence militaire russe à la frontière avec l'Ukraine.
La communauté internationale marque aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés.
Et les éléphants de Côte d'Ivoire sont la dernière équipe africaine à tomber au mondial. Vous en saurez plus dans le journal de la Coupe du Monde que vous entendrez comme la musique de Roger Moutou en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. John Ging, directeur des opérations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, a exhorté le gouvernement malien à exercer, et je cite, un leadership courageux et à régler les problèmes politiques qui ont mené à une grave crise humanitaire au Mali. Monsieur Ging, qui a passé 3 jours la semaine dernière dans le pays, affirme qu'un demi-million d'enfants âgés de moins de 5 ans sont menacés par une malnutrition aiguë, tandis qu'1,5 million de personnes n'ont pas assez à manger. Donnant une conférence de presse au siège de l'ONU à New York, M. Ging a souligné jeudi que le pays avait toujours besoin d'une aide humanitaire d'urgence et qu'il fallait faire davantage pour construire une paix durable.
Les besoins humanitaires vont continuer à se développer au Mali s'il n'y a pas un engagement complet de tout le monde pour la paix et la stabilité, a-t-il prévenu. Dans différentes parties du pays, des centaines de milliers de personnes ont désespérément besoin d'eau, de nourriture et de se sentir en sécurité. La récente flambée de violence dans la région de Kidal souligne la nécessité d'une solution au conflit armé, a encore dit l'officiel onusien. Dans le nord du pays, la crise alimentaire a été aggravée par une récente détérioration de la situation sécuritaire qui limite sévèrement l'accès des populations aux services essentiels comme l'eau, la santé et l'éducation. La protection contre la violence, notamment la violence sexuelle contre les femmes, doit être une priorité, a ajouté M. Ging. Plus de 150 000 personnes ne sont toujours pas retournées chez elles et plus de 18 000 ont été déplacées par les attaques à Kidal au mois de mai.
Au Kenya, et selon les autorités, les forces de sécurité ont abattu 5 personnes soupçonnées d'implication dans les attaques sanglantes qui ont fait plus de 60 morts cette semaine dans la ville côtière de Pekétoni et dans un village voisin.
Pour citer le ministère de l'Intérieur, les 5 assaillants présumés ont été abattus alors qu'ils s'échappaient dans le comté de Lamu, théâtre des attentats de dimanche et de lundi. Le ministère ajoute que plusieurs armes et des munitions ont été récupérées sur place.
Al-Shabaab, la milice islamiste somalienne, a revendiqué les attentats de Pekétoni, mais le président kényan Uhuru Kenyatta a soutenu que c'était plutôt de la violence ethnico-politique bien planifiée et orchestrée par un réseau de politiciens locaux.
Les États-Unis ont annulé des manœuvres militaires prévues en Ouganda et pris d'autres mesures punitives contre ce pays en réaction à sa nouvelle loi interdisant l'homosexualité. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La décision annoncée hier par l'administration Obama prend pour cible les personnes ayant joué un rôle dans les abus liés à la loi anti-homosexuelle, de même que des personnalités publiques notablement corrompues. En plus de l'annulation des exercices militaires aériens que le commandement militaire américain pour l'Afrique devait organiser avec l'armée ougandaise, des restrictions de voyage aux États-Unis sont imposées à divers hauts responsables ougandais. Par ailleurs, des fonds destinés à diverses initiatives dans le domaine de la santé ou de la sécurité ont été supprimés ou réorientés. Toutefois, les autorités américaines ont assuré que l'aide alimentaire et l'assistance aux personnes vivant avec le VIH en Ouganda ne seront pas touchées. Une loi promulguée en février par le président ougandais Yoweri Museveni interdit toute promotion de l'homosexualité et fait obligation aux Ougandais de dénoncer quiconque est suspecté de conduite homosexuelle. Elle a suscité une vive condamnation de la part de la communauté internationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama s'est dit prêt à envoyer plus d'équipements et jusqu'à 300 militaires en Irak pour aider le gouvernement de Bagdad à faire face aux militants islamistes. Intervenant hier à la Maison-Blanche, M. Obama a déclaré que l'engagement américain en Irak, qui avait commencé en 2003, a laissé de grandes cicatrices. Mais a-t-il répété, les forces américaines ne retourneront pas au combat en Irak.
Toutefois, le chef de l'exécutif américain est prêt à prendre une action militaire ciblée si la situation sur le terrain l'exige. M. Obama laisse ainsi ouverte la porte à de possibles frappes aériennes contre les militants sunnites qui ont pris plusieurs villes dans le nord et menacent maintenant Bagdad. Le président envoie le secrétaire d'État John Kerry dans la région et en Europe pour des entretiens avec les alliés des États-Unis.
M. Kerry a qualifié les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant de menace pour tout le monde dans la région, tout en ajoutant qu'il faut aussi plus qu'une réponse militaire et la formation d'un gouvernement d'union nationale le plus tôt possible serait l'une des plus grandes étapes vers une solution, a souligné John Kerry.
Et puis le président Obama a également déclaré hier que l'Iran peut jouer un rôle constructif en Irak à condition de suivre l'exemple des États-Unis et de réclamer la formation d'un gouvernement réellement inclusif dans ce pays. Les précisions de Timothée Denangmaï.
Le chef de l'exécutif américain a averti que l'Iran pourrait aggraver la situation s'il intervenait en Irak comme une force armée appuyant le gouvernement à dominante chiite. Les États-Unis ont fait savoir au gouvernement iranien qu'il doit éviter des actions pouvant encourager le genre de violence sectaire qui pourrait mener à une guerre civile en Irak, a souligné M. Obama. Washington a de profondes divergences avec l'Iran, a-t-il reconnu, mais selon lui, si l'Iran voit la région uniquement à travers un prisme sectaire, il se retrouverait à se battre sur de multiples fronts aux dépens de l'économie et du peuple iranien.
Le secrétaire général de l'OTAN signale un nouveau renforcement de la présence militaire russe à la frontière avec l'Ukraine. Et le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé qu'il signera un accord d'association avec l'Union européenne. Anders Fogh Rasmussen a déclaré que quelques autres milliers de soldats russes au moins ont été déployés, qualifiant ce développement de « pas en arrière » très regrettable.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson, Washington, la voix de l'Amérique. Comment traduire en justice un dictateur? Le procès Hissène Habré, tel était le thème d'un exposé fait hier ici à Washington par Maître Delphine Diraibé à la Fondation nationale pour la démocratie. Cette avocate tchadienne est bien placée pour le savoir puisqu'elle fait partie du collectif des avocats ayant aidé les victimes présumées de l'ancien président tchadien à déposer une plainte contre lui au Sénégal. Au micro de Morgane Guériec, un éclairage de Maître Delphine Diraibé.
C'est un long processus qui a duré plus de 2 décennies. Ça a demandé l'implication des ONG au Tchad, ici aux États-Unis, au Sénégal. Maintenant, nous sommes arrivés au point où Hissène Habré va être jugé en Afrique par un tribunal africain créé par l'Union africaine à cet effet. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire pourquoi on n'a pas cherché à amener le jugement de Hissène Habré au Tchad. Nous voulons un procès équitable où toutes les garanties de la défense sont respectées. La justice au Tchad n'offrait pas cette possibilité et n'offre pas cette possibilité. Donc, c'était un choix judicieux qui a été fait de faire un recours à une juridiction internationale plutôt que nationale.
Quel a été le rôle joué par le gouvernement tchadien?
Le gouvernement tchadien n'a pas montré beaucoup de volonté politique pour toute la phase préparatoire du procès. Maintenant qu'il y a un accord de coopération coopération judiciaire qui est signée entre le Sénégal et le Tchad. On attend que cet accord soit mis en application et que le gouvernement du Tchad puisse jouer le bon rôle en faisant en sorte que ce projet puisse avancer et en faisant en sorte que les personnes détenues au Tchad dont les juges ont besoin au Sénégal pour que ces personnes puissent être transférées au Sénégal dans des meilleurs délais.
L'avocate tchadienne Delphine Diraibé, jointe ici à Washington.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Environ 50 à 80% du café produit dans les provinces du Nord et du Sud Kivu en RDC est exporté frauduleusement vers les pays voisins à cause des taxes excessives. C'est dans ce contexte qu'un forum de deux jours a été organisé à Goma sur l'exportation du café et comment améliorer le climat des affaires pour une meilleure compétitivité. Le point avec notre correspondant sur place, Primo Pascal Rodahigua.
Il n'y a pas d'investisseurs ou acheteurs qui viennent visiter les planteurs et acheter du café en RDC malgré la bonne qualité produite dans ce pays. C'est suite aux taxes exorbitantes imposées aux opérateurs économiques, explique Mark Smith de l'organisation américaine Westrock Coffee.
Vous allez vous retrouver à payer en RDC pour ce que les exportateurs appellent les taxes formelles et informelles. Donc c'est 1% en Ouganda, 3% en Rwanda, au Burundi 3% et en RDC 11 à 13%.
Le climat des affaires actuel du secteur café en RDC ne permet pas un réel développement des exportations à cause des multiples taxes formelles et informelles supportées par les acteurs de ce secteur et la difficulté d'accès au financement.
Les partenaires internationaux qui attendent ce café, ils se disent, c'est que voilà, je vais acheter ce café à partir du Congo, ça va me prendre à peu près un mois pour avoir toute la paperasse et tous les papiers, et cela va me causer un préjudice.
Face à ce déficit, le gouvernement de la RDC a mis en œuvre une stratégie nationale de relance de la filière café visant l'amélioration des performances du secteur à travers une meilleure compétitivité. Il s'agit notamment d'impliquer tous les intervenants dans ces circuits afin de proposer les stratégies qui faciliteront les transactions du café. Malheureusement, l'Office national du café ONC, qui est l'organe régulateur de ce secteur en RDC, semble être en difficulté pour bien jouer son rôle. Albert Kabangwa est le directeur général de l'ONC.
Ce sont des coopératives privées qui devraient faire un certain nombre de choses et qui ne les font pas. Et même dans les textes qui créent l'Office national du café, il est même dit que l'ONC peut pallier donc à l'exportateur défaillant dans des zones où il n'y a pas d'exportateurs. Mais nous savons très bien que chaque fois que l'ONC pourrait arriver à faire cela, ce sont des voix qui vont s'élever pour dire « nous devenons juge et partie ».
Ce forum de réflexion et concertation sur le climat des affaires dans la filière café a été organisé par Elan RDC et Eastern Congo Initiative, qui a réuni durant deux jours les acteurs étatiques et privés de la région. Goma, Primo Pascal Rodahigua, La Voix de l'Amérique.
Notre correspondant Primo Pascal Rodahigua. Nous passons maintenant au Bénin où plus de 11,6 milliards de dollars, soit 6 000 milliards de francs CFA, ont été mobilisés à l'occasion de la table ronde de Paris. C'est considéré comme un grand succès pour le gouvernement béninois qui trouve ainsi la formule pour financer de grands projets. Mais certains Béninois restent sceptiques et attendent de voir la suite, nous dit notre correspondant au Cotonou, Peggy Ludovic Dagba.
Comme prévu, l'initiative du gouvernement béninois consistant à alléquer le financement de certains projets majeurs pour le pays s'est tenue du 17 au 19 juin sous la houlette du président béninois dans la capitale française, Paris. Plus de 6 000 milliards de francs CFA d'engagement franc de la part des partenaires techniques et autres financiers ont été pris et devront se traduire dans les faits les prochains jours, ce qui comble éminemment les attentes du docteur Thomas Boniaï.
J'ai la responsabilité ou l'obligation de reddition des comptes. C'est la raison pour laquelle j'estime que dans le cadre de ce mandat-là, il fallait ou se créer la richesse, ou se créer la croissance et l'importer au Bénin. Ou alors l'expérimenter, l'instrumentaliser au Bénin. Aujourd'hui, je considère que Paris, qui a su réunir tous les partenaires qui ont accepté de financer la croissance, est le chemin par lequel il fallait passer. Et je rends grâce à Dieu, tous mes voeux ont été exaucés.
Les retombées de cette table ronde de Paris constituent d'énormes ressources pour le trésor béninois si elles étaient effectivement décaissées par les bailleurs. Leur gestion est un autre casse-tête qui inquiète certains béninois qui redoutent une évasion de ces fonds. Ma mère Azan Osesi et Romaric Kounoupo illustrent cet état d'âme.
Cette table ronde de Paris, sincèrement, je n'y crois pas. Même s'il y avait de la bonne volonté des investisseurs à venir explorer des possibilités au Bénin, je reste convaincu que la médiocrité managériale, je reste convaincu que la navigation à vue, je reste convaincu que le hasard dans la gestion va encore faire péricliter ces retombées-là. J'en suis persuadé.
Ils peuvent avoir 5000 milliards, mais reste le problème de la gérance de ces sous. Voilà le problème. Nous avions une administration dormante. Nous avions une administration où les gens pillent l'argent de l'État. Donc, le tout ne suffit pas d'aller négocier pour ramener de l'argent afin que d'autres personnes s'en mettent plein les poches. Au moment où ils ont quitté Paris pour venir au Bénin, faut pas qu'en retour, ces sous retournent dans les banques suisses ou dans les banques de Paris. Voilà le véritable problème.
Après la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Bénin vient d'expérimenter l'opération de charme à l'endroit des bailleurs de fonds qui n'ont pas manqué de répondre à son appel. Peggy Ludovic Dagbar, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
La communauté internationale marque aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Cette année, ils sont plus de 45 millions à vivre loin de chez eux à cause des conflits comme en Syrie, en RCA ou au Soudan du Sud. D'autres fuient les violations quotidiennes de leurs droits fondamentaux. C'est notamment le cas des Érythréens. Les précisions de Michel Joseph.
L'année dernière, 2000 personnes quittaient l'Érythrée chaque mois pour chercher asile ailleurs. Un chiffre qui a doublé cette année, affirme la rapporteuse spéciale pour les droits humains en Érythrée, Sheila Keith Ruth.
It shows the level of despair. Hope is outside.
Cela montre le degré de désespoir. L'espoir est hors du pays. Même si les chemins pour l'atteindre sont très difficiles, avec des risques de mort dans le désert ou de noyade en mer. Cela est vraiment choquant, surtout quand on sait que les gens connaissent ces risques. Selon le HCR, 13 000 Érythréens sont arrivés par bateau en Italie depuis le début de l'année, soit 32 % de toutes les arrivées dans ce pays européen. C'est la violation brutale de leurs droits qui les a fait partir de la sorte, souligne la rapporteuse spéciale pour l'Érythrée. En plus des disparitions forcées, les arrestations arbitraires et de la torture, les Érythréens fuient aussi un service militaire national sans limite, dit Madame Keith Ruth.
Originally, it was meant for 18 months, and at the moment, it has become an indefinite.
À l'origine, il était prévu pour 18 mois, mais maintenant, il est devenu illimité et les gens sont enrôlés pour 14, 15, 20 ans, à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 50 ans. Toute la population est conscrite. Ce n'est pas une façon durable de gérer un pays. Ceux des Érythréens qui réussissent à partir exposent les membres de leur famille à de lourdes amendes ou même des arrestations, a ajouté la rapporteuse spéciale pour l'Érythrée. En pareil cas, les gens sont détenus dans des centres souterrains surpeuplés ou dans des conteneurs, ce qui les expose à la chaleur et aux maladies, a-t-elle déploré. À ce rythme, l'Érythrée pourrait un jour se retrouver sans population et avec une diaspora croissante éparpillée à travers le monde, a averti Sheila Keith Ruth.
Washington, la Voix de l'Amérique, maintenant notre journal de la Coupe du Monde de Brasilia. L'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Nicolas Pinault.
Bonjour à tous, nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde au Brésil. Je me trouve dans la capitale, Brasilia, qui a vu la défaite hier de la Côte d'Ivoire, mais l'espoir reste de mise. La Colombie, elle est qualifiée pour les huitièmes de finale.
Colombia, la gana. Olé, 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 olé.
Les supporters colombiens qui ont le sourire, les éléphants sont donc tombés avec honneur hier 2-1 au stade Mané Garrincha. Gervinho, auteur de son second but en 2 matchs, avait pourtant permis à la Côte d'Ivoire de réduire le score. Insuffisant néanmoins, mais les Ivoiriens présents à Brasilia ne sont pas abattus.
Les éléphants ont très bien joué, ils se sont très bien défendus. La Colombie était à portée de main, il y a eu quelques erreurs tactiques. Je pense qu'au prochain match, il faudra tout donner. Hein. La Côte d'Ivoire et la Colombie se sont neutralisées. Le deuxième but de la Colombie est un but vraiment opportuniste, hein, puisqu'on jouait en arrière, ils ont réussi à prendre un ballon. Donc oui, le résultat, il reflète, si vous voulez, la réalité du match, 2-1.
C'était vraiment un beau match, beaucoup d'action et ça s'est joué à une seule erreur défensive qu'on a mal gérée. Mais on a confiance parce que le prochain match contre la Grèce, on va sûrement les battre.
Voilà pour ces réactions de supporters ivoiriens recueillis ici à Brasilia. Il faut dire que l'optimisme est de mise puisque ce matin, les éléphants sont deuxièmes du groupe C. Ils ont leur destin entre leurs mains, il leur faudra battre la Grèce lors du dernier match. Les Grecs et les Japonais sont derniers du groupe ex aequo suite à leur match nul hier soir 0-0. Que pensent les Abidjanais du match Côte d'Ivoire-Colombie? Germain Dri, notre correspondant, a tendu son micro dans les rues de la capitale économique ivoirienne.
Les Ivoiriens ne sont pas contents du résultat du match à Côte d'Ivoire-Colombie. Pour les uns, l'arbitre n'a pas joué franc jeu. Kwame Pierre.
J'avoue que ça a été un arbitrage assez mitigé. Avec la perte de temps de Quintero et de Yepes, vraiment c'est un arbitrage qu'on peut critiquer.
D'autres pensent que l'entraîneur des éléphants n'a pas réagi au moment où il fallait. Ouraga Armand.
La Côte d'Ivoire pourrait bien mener, accuse l'entraîneur. Elle pourrait vraiment chose, mais Didier Drogba très tôt, mais l'a mis en retard. Pourquoi vraiment ne pas le titulariser?
Kwame Ndri Jérôme, vraiment je suis déçu de l'entraîneur. La Côte d'Ivoire a joué contre lui-même son propre entraîneur.
Quant à Claude Danon, il estime qu'avec la Grèce, l'espoir est permis.
Il faut toujours attendre le dernier match d'espoir pour se prononcer. On a encore beaucoup de chance.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
La déception d'Abidjan est aussi partagée à Ouagadougou, comme nous l'explique Salif Kabore.
Les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire ne cèdent pas au découragement. Ils reconnaissent même que l'équipe ivoirienne a donné le meilleur d'elle-même.
Les Ivoiriens ont démontré qu'ils en avaient dans le ventre. C'est vrai qu'il y a un problème de choix tactique. Parce que Bamba, par exemple, on aurait pu s'en passer. Mais bon, voilà, le score, c'est le score. Et puis, on suppose que le meilleur a gagné.
C'était un grand match. La Côte d'Ivoire a joué, la Colombie a joué. Les deux équipes se valaient. C'est une équipe africaine, je la supporte.
Ils ont fait de leur mieux. Ils ont bien joué. Bon. Un match, il faut toujours un gagnant.
Par contre, ce supporter trouve que le match a été décevant.
On sent que jusque-là, il y a un petit problème avec les joueurs qui peinent à rentrer dans le match, dans la compétition même. Quand on voit la collaboration Didier Drogba et Yaya Touré, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils n'arrivent pas à s'entendre pour tirer les coups francs.
Les éléphants ne sont pas encore éliminés de la compétition et leur prochain match contre la Grèce sera déterminant.
Déjà, on se prépare pour la prochaine rencontre contre la Grèce.
Contre la Grèce, moi je vois un match nul. Hein.
Ouagadougou, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Analysons un peu à présent la performance des éléphants pour l'ancien entraîneur des étalons du Burkina Faso et de l'ASEC d'Abidjan, saboteur. La Côte d'Ivoire a souffert d'un manque de concentration.
Le grand problème de l'équipe nationale, c'est leur bloc défensif. Depuis longtemps, il y a beaucoup de stars dans l'équipe. Et lorsque l'équipe nationale de Côte d'Ivoire perd la balle, quelqu'un ne veut jouer au rôle d'ouvrier. Chacun se prend comme patron. Lorsqu'il perd le ballon, vous n'allez pas voir, par exemple, le bloc équipe où il y a un qui passe sur le porteur du ballon. Les autres attaquent les autres joueurs qui sont démarqués dans les zones libres. Personne. Chacun attend facilement.
Vous avez aussi vu l'équipe du Cameroun qui a donné une très mauvaise prestation. Ça vous a surpris?
Le Cameroun maintenant, avec la renommée, ça veut dire que les anciens qui ont fait la fierté du Cameroun, c'est ce nom qui est resté. Sinon, actuellement, le président du Cameroun, l'équipe du Cameroun n'a plus d'âme.
La Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne. Et voici maintenant le coup de sifflet de notre consultant Jules Valentin Ngwe, qui revient sur les performances du Cameroun et des éléphants.
We celebrate the best African football.
Bonjour. Que retenir des dernières prestations africaines dans ce mondial si prolifique? Le naufrage camerounais contre la Croatie ou la défaite honorable des éléphants qui ont enfin joué à leur véritable niveau? En fait, les deux. Il y a tout d'abord eu le choc dans la chaude nuit de Manaus par la faute d'une Croatie au complet avec le retour de son buteur maison Mandzukic. Les Croates qui ont eu la bonne idée d'exhumer les exceptionnelles qualités du football yougoslave que les Camerounais avaient curieusement oublié 20 ans après le désastre des Zaïrois de 1974 ont été aidés par leur adversaire du jour. Que dire de la véritable faute professionnelle d'Alexandre Song à la 43e minute qui suicide l'équipe alors que tout était encore possible? Que dire surtout de l'altercation publique révélatrice entre Assou Ikoto et Moukandjo à la fin de la rencontre? Savons. Car 16 heures après, dans le stade Mané Garrincha de Brasilia, la Côte d'Ivoire a remis une copie presque parfaite qui a eu le mérite de présenter les conditions d'une bonne prestation africaine face aux grosses équipes confirmées. Premièrement, la nécessité d'une période très prudente d'observation afin de mettre son jeu en place et éviter le but assassin du début du match. Deuxièmement, l'obligation de gagner les duels initiaux pour faire douter l'adversaire et gagner en confiance. Troisièmement, conserver la solidarité, la solidité et l'agressivité du bloc. En s'appuyant sur les qualités de ces joueurs de base, les éléphants ont offert à un public pourtant hostile la prestation la plus convaincante de la représentation africaine. Reste à souhaiter que cette défaite positive soit l'essai à transformer contre la Grèce. À demain.
Une autre rencontre jeudi a provoqué une onde de choc, c'est la nouvelle défaite de l'Angleterre, cette fois 2-1 face à l'Uruguay. Les Anglais, pas mathématiquement éliminés, mais c'est tout comme après ce match qui a vu Suarez, le joueur de Liverpool, marquer deux fois et offrir la victoire aux siens. En cas de match nul ce vendredi de l'Italie et du Costa Rica, l'Angleterre pourra vraiment dire adieu à la compétition. Dans le groupe E, on devrait y voir plus clair à Salvador, puisque tout à l'heure, la France et la Suisse s'affrontent. Les deux équipes avaient gagné leur premier match. Enfin, toujours dans le même groupe, le Honduras jouera contre l'Équateur. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde, préparé comme chaque matin par Bagassikoura et Nicolas Pinault. Idrissa et tous les fidèles de la Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com à ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde sur la Voix de l'Amérique.
Et maintenant, la musique de Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Coupe du Monde 2014, la Colombie croque la Côte d'Ivoire. Malgré un bon match, hein, les éléphants ont dû s'incliner 2-1 devant le réalisme des Cafeteros. La Colombie est presque qualifiée pour les huitièmes de finale et nous célébrons ce matin leur victoire avec Alberto Barros d'un tributo à la salsa colombiana.
Maestro Alberto Barros est arrangeur, compositeur et chef d'orchestre. Ce musicien colombien de renommée internationale depuis plus de 35 ans a joué avec la plupart des grands orchestres colombiens.
Ah oui, un grand monsieur ce monsieur. Et c'est avec son tributo à la salsa colombiana que nous célébrons avec tous les amis colombiens. Mais laissez-moi vous dire, Idrissa, que c'était un match crucial pour la qualification en huitième de finale hein, qui attendait les deux équipes. L'engagement physique et les duels ont été récurrents et une vraie bataille au milieu de terrain s'est installée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la Coupe du Monde.
Tributo à la salsa colombiana. J'admire ton fair-play, Roger. Merci.
De rien, Idrissa. Nous saluons ce matin André Charles au Grand Laour en Côte d'Ivoire.
Retrouvez Roger Muntou dans le RM Show à 20h temps universel.
Tabaco y brillo. mire, vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el velo hierve y la baila hasta amanecer. Habrá corrida de toros.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.